Donc, on commence le troisième cours sur l'histoire de l'Église. On a déjà parlé des premiers débuts du christianisme dans les Actes des Apôtres. On a parlé des pères de l'Église. Donc, les pères sont des chrétiens de tout au début du christianisme qui étaient à peu près à l'époque, juste quand il n'y avait plus d'apôtres. Quelques-uns étaient avec la fin des apôtres, mais c'est surtout en suivant les apôtres. Donc, leurs écrits ne sont pas inspirés. Ce sont des écrits des pasteurs pour régler les problèmes dans les églises et tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler des apologistes. Alors, les apologistes ont suivi les pères apostoliques. C'est pas les apôtres, mais les pères apostoliques. C'est les pères qui ont suivi les apôtres. Mais les apologistes, ils ont réfuté les critiques, comme par exemple que les chrétiens étaient des cannibales. Ils ont défendu la foi face à ces critiques qui venaient du paganisme et du judaïsme. Donc, on les appelle les apologistes. Le mot apologie, apologéo, c'est un mot grec qui veut dire défendre. C'est la défense de la foi. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une façon de dire que je suis désolé de ceci ou cela. Non, c'est une défense raisonnée de la foi. On ne va pas aller dans trop de détails, on va simplement mentionner certaines de ces personnes, ceux qui défendaient le christianisme contre les critiques. Donc, il y avait Justin Martyr, de l'année 100 à 165. Beaucoup de ces hommes, à la fin, étaient martyrs. Hein? Donc, Justin Martyr, il est devenu martyr. Donc, il a écrit les premières apologies. Il y avait Tatien. Alors, Tatien, on a presque rien de ses écrits, mais on connaît qu'il existait. Athen Agor, donc de l'année 177. Théophile d'Antioche. Donc, Antioche, donc c'est là que Paul avait travaillé, n'est-ce pas? Tertullien, on va le revoir la semaine prochaine. Tertullien, qui est né en l'année 160. Donc, il a beaucoup écrit. Il y avait Irénée de Lyon, donc dans le pays des Galles. Donc, pour les Romains, en dehors de l'Italie, c'était le pays de Gaulle par là, c'est la Gaule, et la capitale était Lyon. Et un des premiers pasteurs, peut-être pas le premier, mais un des premiers pasteurs était Irénée. Irénée était martyr aussi. Donc, je pense qu'il est important de comprendre que dans les Actes des Apôtres, donc ça couvre une trentaine d'années. On a déjà parlé de ça, me semble. Mais le livre Actes des Apôtres couvre une trentaine d'années. Et pendant ces trentaines d'années, il n'y a que trois fois que la Bible dit que les chrétiens ont parlé en langue. Que Dieu a exercé ce don qui s'appelle le don de diverses langues. Et nous constatons dans les Actes des Apôtres que c'était jamais volontaire, c'était toujours Dieu qui saisit de ces personnes et que sans leur volonté, ils exprimaient dans les langues étrangères. Mais le point, c'est que ça n'a eu lieu que trois fois pendant 30 ans. Alors, est-ce que c'était une activité quotidienne? C'était très rare, même dans les Actes des Apôtres. La prochaine chose, je voudrais dire, donc notre christianisme ne se repose pas sur les pères apostoliques. Notre christianisme ne se repose pas sur les apologistes qui les ont suivis. Notre christianisme se repose sur le Nouveau Testament. Donc, une église biblique ressort du Nouveau Testament. Si vous allez dans le profond d'une jungle, vous mettez dans leur langue un Nouveau Testament, les gens lisent le Nouveau Testament, ils croient au Nouveau Testament, ils mettent en pratique le Nouveau Testament, vous aurez une église biblique. Parce que c'est ce qui ressort du Nouveau Testament. On n'a pas besoin d'une succession. Il y a quelques baptistes qui croient qu'il y a une succession de baptême depuis leur propre baptême, au pasteur qui les a baptisés, au pasteur qui les a baptisés, au pasteur qui les a baptisés. Et ils croient qu'ils peuvent traverser tous les siècles jusqu'à Jésus-Christ qui était baptisé par Jean-Baptiste. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la façon catholique à raisonner. Il y a beaucoup de baptêmes qui nous manquent dans cet enchaînement que je viens de vous dire. Hein? Peut-être presque 2000 ans. Donc, on ne va pas inventer une succession jusqu'aux apôtres. On n'a pas besoin. On a la parole de Dieu. On va directement à la Bible, au Nouveau Testament, qui nous dit ce que Dieu veut de nous et ce qui nous dit ce qui est une église biblique. Un autre problème, et c'est pour cela que je le dis, si on va devoir créer une succession, on va devoir nous identifier avec les gens qui n'étaient pas tout à fait comme nous. On va devoir s'identifier avec les groupes qui étaient peut-être même les hérétiques de l'époque. Et nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons revenir au texte biblique et trouver notre foi là-dedans. Alors, le problème qui arrive au deuxième, troisième siècle, c'est qu'on va remplacer le spirituel avec l'intellectuel. Donc, pour nous, on vient à la Bible et on lit la Bible et par la foi, on croit que c'est vrai et on va mettre en pratique cette chose-là. Mais si on ne fait pas attention, on va devenir des intellectuels religieux. Au lieu d'agir par la foi, on va agir par le raisonnement. Ce n'est pas pour dire mettre le raisonnement en vacances, mais c'est simplement pour dire que notre raisonnement doit se raisonner sur le texte biblique et on croit à la vérité du texte. Notre raisonnement peut se tromper. Et on ne veut pas devenir les intellectuels, on voudrait devenir des chrétiens bibliques. Donc, en revenant sur le thème, le but des apologistes était de refuter les fausses accusations. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cannibalisme, l'athéisme, on a parlé de ça l'autre jour. Okay? Dans le premier siècle, et peut-être un peu dans le second siècle, mais c'était surtout dans le premier siècle, il y avait l'hérésie du judéo-christianisme, on va l'appeler. Donc, vous allez vous souvenir qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis à Jésus. Et les Actes des Apôtres nous dit, je crois que c'était les Actes des Apôtres, qui nous dit que beaucoup de prêtres juifs, se sont convertis à Jésus. Et ils étaient tous zélés pour la loi. Et donc, ça faisait un christianisme. Donc, on croyait en Jésus, mais on croyait qu'il fallait quand même pratiquer la loi de Moïse. Il fallait être bien en règle avec la loi et ajouter la foi en Jésus-Christ. Donc, le premier siècle des chrétiens, la première génération, on a dû beaucoup travailler sur cette question. Combien de judaïsme doit-on pratiquer pour être un vrai chrétien? La réponse était quoi? Presque rien du tout. Hein? C'était par la foi, mais quand même, il y a un Dieu, donc le monothéisme, la moralité, non immoralité, par idolâtrie, et il y a pas des choses sacrifiées aux idoles et au le sang et tout ça. OK? Donc il y a certaines bases, mais les judéo-christianisme voulaient plus. Ils voulaient qu'ils pratiquent la circoncision, qu'ils ont le culte le samedi, qu'ils ont tout un tas de choses. Eh bien, cette hérésie revient de temps en temps, peut-être toujours. Donc, nous avons, depuis peut-être presque deux siècles, un groupe qui s'appelle les Adventistes. Et avant eux, on avait l'islam. L'islam qui veut pratiquer certaines règles qui étaient dans l'Ancien Testament. Hein? Mais les Adventistes sont les plus proches, on va dire, à nous, qui ont une foi plus ou moins baptiste, mais qui ont aussi des règles de l'Ancien Testament qui veut pratiquer. Donc, Adventiste, donc, du septième jour. Donc, il veut avoir le sabbat, le jour de sabbat pour le jour de culte. Ils sont souvent les végétariens, peut-être pas toujours. Ils font beaucoup de jeûnes. Et donc, ils puisent dans l'Ancien Testament pour trouver la pratique de leur religion. Le judéo-christianisme, Dieu l'a supprimé globalement à l'année 70, quand il a détruit Jérusalem. Par la suite, il y a le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est la seconde hérésie, donc seconde philosophie religieuse que déjà les apôtres devaient aborder dans le Nouveau Testament même. Donc, le mot gnostique veut dire savoir. Donc, un agnostique veut dire ne sait rien, sans savoir. Donc, une personne aujourd'hui qui va dire je suis agnostique, il veut dire il a un manque de connaissances, donc il ne peut pas décider s'il croit ou il ne croit pas. Mais les gnostiques, c'était contraire. Les gnostiques, ils avaient un certain savoir, ils avaient même un mystère, c'était une connaissance spéciale que les autres n'avaient pas. Alors, le gnosticisme était un genre de synthèse entre le christianisme et la philosophie grecque. Dans le gnosticisme, la matière est considérée mauvaise. C'est mauvais ou mauvaise? Lequel?
Mauvaise.
Mauvaise, OK. Donc, il y a le bien uniquement dans l'esprit et tout ce qui est dans la matière est mauvais. Donc, c'est tout un système. Quelque part, ils croyaient que Jéhovah, ou Yahvé, de l'Ancien Testament, était un demi-dieu, ou un demi-heure, c'est le mot, qui a créé le mal. Donc, Dieu, de l'Ancien Testament, a créé le mal. Christ était bon. Et lors du baptême de Jésus, Christ est venu en lui, soit sous forme de fantôme, soit en esprit. Et le salut vient par la croissance dans la connaissance qui libère l'esprit du corps mauvais, et qui emprisonne l'esprit. Donc, les conséquences de cette doctrine, c'est qu'on renie la création par Dieu. Donc, la création était par un autre Dieu et que Jéhovah a introduit le mal. Bon, qui est-ce bibliquement qui a introduit le mal? C'est le diable, c'est Satan. Donc, on renie la création par Dieu et on rend Dieu simplement un sous-Dieu. On n'a plus donc le monothéisme parce qu'il y a plusieurs dieux. On renie l'incarnation de Jésus-Christ, que Dieu n'a pas pu se manifester en chair parce que la chair est mauvaise. D'accord. On renie la rédemption par le sang, parce que le sang est matière, donc Dieu ne peut pas se servir de la matière. Qui sont les élus? Les élus, donc les chrétiens, les vrais sauvés, sont des personnes qui ont reçu un étincelle de la part du bon Dieu,
une étincelle,
merci, du vrai Dieu. D'autres vont dire que Dieu s'est explosé et on est en train de retrouver toutes les étincelles de Dieu et par la suite, donc ils vont tous être réunis pour avoir un seul Dieu, n'est-ce pas? Et à la fin, on va reformer le Dieu originel. Donc ça, c'est tous les idées bizarres qu'on enseigne. Alors, La chose qui est curieuse, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle doctrine chez les luthériens, c'est que quand on baptise un bébé, eh bien, on met l'étincelle de Dieu là-dedans. Ça revient un peu vers le gnosticisme. C'est pas identique, mais c'est semblable. Donc, on va voir un nom. Tertullien. Tertullien était un de ces apologistes. Et lui faisait partie d'un groupe dans ce domaine-là. OK? Donc, on va voir ces choses. Mais ce qui s'est passé... Bon, on va revenir sur ça. Donc, ce que j'aurais dû dire, c'est que Irénée et Tertullien étaient parmi ceux qui combattaient le plus le gnosticisme. Je me suis trompé là. Et un homme qui s'appelait Marcion était un prédicateur, un pasteur, qui promouvait le gnosticisme. Il y a un autre mouvement un peu plus tard qui s'appelle le manichéenisme, et eux, ils ont mélangé la Bible avec une espèce de bouddhisme, et ils ont créé un genre de dualisme avec le roi de lumière contre le roi des ténèbres. Et plus tard, on va dire que les cathares étaient les manichéens. Ce qui n'était pas vrai, mais c'est ça qu'on raconte couramment. Et puis, il y avait aussi les hérésies qui étaient assez près à la vérité, comme un peu comme les témoins de Jéhovah aujourd'hui. C'était les mouvements antitrinitaires. Les mouvements antitrinitaires, antitrinitaristes, qui croyaient globalement aux doctrines du Nouveau Testament, mais qui ne voulaient pas croire que, qu'il y a la Trinité, qu'il y a le Seigneur Jésus soit vraiment Dieu fait homme, ou que le Saint-Esprit soit vraiment Dieu. Ils voulaient voir le Père comme Dieu, mais pas un Dieu en trois personnes. Ça va jusqu'à là? Ça va? Donc, maintenant, on va parler d'un mouvement. Comme j'ai dit, le christianisme commençait à avoir cette tendance vers l'intellectuel. Et comme la dernière fois, j'ai dit qu'on commençait à fixer des règles et tout ça. Au lieu de vivre par les principes, on commençait à vivre par les lois, les règles. Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle le montanisme, qui a eu naissance dans le second siècle. Et donc, c'est nommé après un prédicateur qui s'appelait Montanus. Et Montanus était un genre de charismatique de l'époque. Il était d'un genre de mouvement de sainteté de l'époque. Alors, Montanus croyait qu'il était l'incarnation du Saint-Esprit. Il avait deux prophétesses et il prêchait sévèrement contre le luxe et contre le deuxième mariage, contre le péché chez les chrétiens. Et donc son message était quand même un message conservateur. Et puisque déjà les chrétiens étaient entremêlés beaucoup avec le monde et tout ça. D'un côté, ils étaient persécutés par le monde, mais l'autre côté, ils étaient attachés au monde. Donc, ces prédications attiraient beaucoup de croyants, et le mouvement a attiré beaucoup de monde et a survécu pendant peut-être de 5 siècles. Donc, c'était un mouvement qui était quand même important à l'époque. Donc, on dit que Montanus avait, entre guillemets, parlé en langue à son baptême. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le nombre de personnes qui ont, ou le nombre de fois que les gens dans le Nouveau Testament ont parlé en langue?
Trois
fois pendant 30 ans. Donc, on voit que de temps en temps, il y en a qui voudraient proclamer, avoir le Saint-Esprit, et une moyenne de manifester cette prétention, c'est de parler en langue. La différence, c'est que parler en langue que nous connaissons aujourd'hui, c'est les choses inintelligibles, on ne peut pas comprendre ce que les gens disent, et c'est à leur volonté. Quand ils veulent, ils parlent en langue, et quand ils ne veulent pas, ils ne parlent pas en langue. Tandis que dans la Bible, c'était les langues réelles, et c'était quand ils ne voulaient pas. C'est Dieu qui a dit, parle comme ça, et on parlait comme ça, dans la langue qu'on ne connaissait même pas. Et donc, il y a quand même une grande distinction entre ce qu'on fait, et on dit, voilà le parler en langue, et ce que la Bible dit, voilà ce qui était le parler dans les langues diverses, le don de parler diverses langues. Alors, à cette époque-là, donc dans le deuxième siècle, on a créé une académie chrétienne à Alexandrie. Donc, Alexandrie, c'est en Afrique du Nord, n'est-ce pas? Donc, on a la Méditerranée, la mer Méditerranée là. On a le centre du monde pour l'époque, c'était Rome, au nord de cette mer Méditerranée. Rome est là, en Italie, pour nous. Et donc, il y a toute la population qui fait le tour de cette Méditerranée. Donc, ils sont tous romains dans cela. Et donc, il y a une église assez puissante en Afrique du Nord. Donc, c'est bien avant qu'il y a eu les Arabes qui ont créé l'islam que nous connaissons aujourd'hui, qui est en Afrique du Nord. C'était par là, c'était Alexandrie, Carthage et tout ça, c'était les villes romaines. Et donc, dans le nord de l'Afrique, à Alexandrie, ils ont démarré une école chrétienne. C'était la première école chrétienne. Donc, on peut parler aujourd'hui des instituts bibliques, des facultés de théologie et tout ça. Mais la première, c'était là, à Alexandrie, dans le second siècle. Qui a démarré à ce moment-là. Et au fur et à mesure, dans cette école, on a commencé à vouloir être, comme j'ai dit tout à l'heure, les intellectuels. On a essayé de trouver des parallèles entre le christianisme, le judaïsme et le paganisme, ainsi que la philosophie grecque. Donc, l'idée de l'écuménisme n'est pas nouvelle. Hein? On a toujours cette vouloir de compromettre avec ce qui se trouve autour de nous. Et en plus, dans le troisième siècle, pour faciliter le passage du paganisme au christianisme, il y a un qui s'appelle Grégoire de Pontus, et il y a, donc lui était un élève d'origine, un des professeurs dans cette école-là. Donc il a transformé les fêtes païennes en fait chrétien. Donc c'est déjà dans le troisième siècle, on commence à christianiser les événements païens. En plus, dans cette période, déjà dans le second siècle, mais ça progresse dans le troisième siècle, on commence à prolonger le temps avant le baptême. Donc bibliquement, ce qu'on voit, et qu'est-ce que c'est notre exemple, notre foi vient directement de la Bible. Donc, on revient à la Bible pour voir ce que nous voulons faire. Mais eux, ils commençaient à prolonger le temps du baptême. Et déjà, dans le second siècle, on avait remplacé la foi avec l'intellect. Donc, on voulait s'assurer que la personne comprenait bien le christianisme avant qu'il obéisse au Seigneur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut que le croyant se fasse baptiser, qu'il se joigne à la communauté chrétienne. Et eux, ils ont mis de plus en plus de temps, jusqu'à 2 ans, entre le moment que la personne dit « je crois en Jésus » et le moment qu'on le baptise. Donc, la personne ne peut pas, en fait, faire partie de l'Église avant le baptême. Et donc, ça faisait tout ce temps de neutralité, on va dire. C'était pas bien. Alors, le montanisme, donc j'ai mentionné ça tout à l'heure, le montanisme était quand même sectaire et ils croyaient que c'était que eux, les vrais chrétiens. Comme font beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais c'est dans un monde où on a cette, en même temps qu'on a ça, donc on a en même temps développé ce qu'on appelle l'Église orthodoxe, l'Église unique, l'Église conforme. Donc tous les chrétiens ont plus ou moins la même pensée, pas vraiment, mais plus ou moins la même pensée. On a la foi apostolique. Et puis voilà, c'est des évêques, c'est des commence à avoir des assistants et on commence à avoir une petite hiérarchie, pas une grande hiérarchie, mais arrivé au 4e siècle, donc des gens sautent un siècle là, mais ce seront des hommes puissants avec beaucoup de puissance. Et au fur et à mesure, on va dire que là où il y a un évêque, il y a l'Église, et là où il n'y a pas l'évêque, il n'y a pas l'Église. Qui veut dire que les gens, les croyants, ne comptent plus pour rien. Et ce qui compte, c'est l'évêque. C'est lui qui a la foi apostolique. C'est lui qui obtient, qui le contient. Hein? C'est en lui. Donc ça, c'est un petit cheminement là. Mais j'ai dit ça pour dire que contre cette idée-là, le montanisme croyait que eux, ils avaient la pureté de l'Église du Nouveau Testament. Donc ils attiraient du monde avec toute cette idée-là. Et en plus, ils étaient plus saints que les chrétiens orthodoxes, catholiques. Et donc, quelque part, ils étaient les meilleurs chrétiens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient les baptistes. Et souvent, dans les livres baptistes, on va dire que dans l'héritage succession apostolique baptiste, on passe par les montagnes. Le montanisme. Mais non, le montanisme n'était pas baptiste. Hein, c'était charismatique ou pentecôtiste ou quelque chose, mais c'était pas baptiste. Mais on n'a pas besoin de trouver une succession apostolique parce que on a un héritage entre nos mains. C'est la parole de Dieu. On va, la prochaine fois, on va parler de cette école que j'ai mentionnée tout à l'heure. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais on va revenir là-dessus. Et puis, on va parler un petit peu d'Irénée et encore aussi de Tertullien. Et je ne suis pas sûr si on va parler... Je regarde un petit peu en avance dans mes notes. Il y a ici et là des mouvements qui sont en dehors du courant. Donc, comme j'ai dit, le montanisme était en dehors du courant catholique. Il y avait d'autres mouvements aussi qui sont très peu connus, en partie parce que tous leurs écrits étaient détruits. Donc, c'est très rare. De temps en temps, on va trouver dans une bibliothèque catholique un document qui sera crédité à un de ces hérétiques, entre guillemets, hérétiques du premier, du second, du troisième, du quatrième siècle. Mais c'est très rare qu'on trouve leurs écrits. Mais quand on trouve ces gens qui étaient en dehors du système, le plus connu, eh bien, leurs doctrines sont assez bonnes. mais ils n'étaient pas des catholiques, ils étaient des, donc je donne un nom, c'était les Novatiens, et aussi un autre groupe qui s'appelait les Donatistes. Il y avait d'autres qui s'appelaient les Arnoldistes, etc. Il y avait des Istes, ceci, cela. Mais du fait qu'ils ne faisaient pas partie de ceux qui étaient considérés les vraies communions chrétiennes, ils étaient mis à l'écart et considérés comme les hérétiques. Mais on va en parler de ça bien plus tard. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Avez-vous une question peut-être? Oui, mais ça commence déjà dans le premier siècle. Mmh. On a des déformations. Et justement, les écrits du Nouveau Testament sont presque toujours, pas toujours, mais presque toujours pour corriger les aberrances ou les déviations. Et donc, quand on dit on voudrait être les chrétiens du premier siècle, enfin, ça ne veut rien dire. Ben non, parce qu'ils étaient des hérétiques. Voilà. Et donc, mais quand même, on veut être des chrétiens, non pas du premier siècle, mais de la Bible. Et quand on arrive au deuxième siècle, et c'est souvent là que nous nous trouvons, nous sommes des chrétiens du deuxième siècle avec nos règles. On n'est plus de la foi, mais on est des règles. Et on ne fait pas ceci, on fait cela, et on suit ceci, on suit cela. Et on oublie que, non, on veut être des croyants du Nouveau Testament.